France Inter.
Club.
Bonsoir et bienvenue dans Côté Club 2024. Nous sommes lundi 8 janvier, installés en direct sous les lumières du studio 621 de la Maison de la Radio et de toutes les musiques avec Marion Guilbault en mode frileuse aujourd'hui. Bonsoir Marion.
Bonsoir Laurent, bonsoir tout le monde.
C'est parti pour une nouvelle aventure de Côté Club, votre magazine rendez-vous de toute la scène française et la meilleure avec nos deux invités ce soir qui sont Tim Dup et Rudiger. Bonsoir à vous deux.
Bonsoir.
Bonsoir.
Tim Dup, la dernière fois qu'on s'est vu ici, c'était l'année dernière pour votre quatrième album Immortel. Ce soir, vous faites votre rentrée littéraire de janvier avec un premier roman, Je suis fait de leur absence, c'est le titre. Un roman familial qui s'empare d'un sujet terrible, le féminicide. Écrit à la première personne, un fils revient sur le meurtre de sa mère sous les coups de son père alors qu'il était enfant, avec la question de la transmission qui se pose. Pour vous, Rudiger, c'est le deuxième album de Dancing King, 9 titres folk, rock, electronica, des histoires de deuil, d'amitié, hanté par les héros de votre culture musicale que l'on sait immense, de Radiohead aux Beatles, en passant par Robert Wyatt. Et pour vous Marion ?
Quoi d'innovant, quoi de palpitant dans l'actualité musicale hexagonale, à part celle de nos deux invités, bien sûr. Eh bien la réponse est dans le fil vers 22h30.
Côté Club, c'est ouvert, entre vos oreilles.
Côté Club, Laurent Goumard sur France Inter.
Cette année, Tim Dup, je me souviens d'une interview dans laquelle vous mettiez en avant la scène musicale féminine en France, sa vitalité, son engagement. On va ouvrir tout de suite avec une de ses héroïnes, Zao de Sagazan, Aspiration sur France Inter.
Quelques aspirations et la spirale commence pour de l'inspiration. Madame caresse la démence, mais jamais ne s'arrête et jamais ne s'arrêtera cette fois dans la tête qui toujours la ramènera à sa jolie cigarette, à sa jolie cigarette. C'est sa dernière cigarette, de celles qui font tourner la tête. Quelques aspirations et la spirale recommence. Pour de l'inspiration, je deviens bête, tout devient dense, mais jamais.
Rudiger et Tim Dup ont rendez-vous dans Côté Club ce soir. Est-ce que c'est le premier rendez-vous ou vous vous connaissiez déjà avant ?
Eh bien, pas du tout. Et c'est un plaisir de faire ta rencontre.
De même, on se découvre.
Exactement.
Tim Dup, 4 albums depuis 2017. Le dernier, c'était Immortel, sorti en 2023, l'année dernière. Aujourd'hui, c'est la rentrée littéraire. Avec un premier roman, Je suis fait de leur absence, chez Stock. Un roman de tragédie familiale construit autour d'un féminicide. Le père a assassiné sa femme, la mère du narrateur. Pour un premier roman, vous avez vraiment travaillé un sujet plutôt violent, douloureux. Vous en aviez le projet depuis longtemps ?
Alors, ce projet de roman, il est né il y a 3-4 ans d'une rencontre avec une agente littéraire, Catherine Nabokov, qui m'accompagne toujours. Elle m'a, disons, donné confiance dans cette envie que j'avais.
D'écrire, c'est une chose, mais d'écrire un roman sur ce sujet-là ?
Alors, le sujet est venu, je dirais, quand même dans un deuxième temps. Au départ, il y avait surtout l'idée d'aller raconter... une fraise familiale, en fait, tout est parti d'une nouvelle que je lui avais envoyée. Elle m'a dit ça, je pense que ça peut faire plus long qu'une nouvelle. Et il y a de la matière pour ça. Et ce qui est resté de cette nouvelle, c'est plutôt, je dirais, une maison, une fresque familiale, l'idée de transmission, de croiser comme ça des regards intergénérationnels et une géographie aussi sociale et paysage normand. Voilà ce qu'il est resté de cette nouvelle. Et ensuite... cette idée de la violence intrafamiliale et en prolongement du féminicide, mais qui est quand même là comme une sous-tension dramatique. Je ne crois pas que le roman ne porte que là-dessus, mais c'est vrai, c'est là et c'est venu plutôt après.
Rodiger, vous signez votre deuxième album, The Dancing King, pas de premier roman en vue ?
Non, pas pour l'instant.
Pas tenté par les nouvelles ou autre chose ?
Non, déjà j'essaie de faire mes textes, c'est bien assez pour ma petite personne.
Des textes en anglais ?
Des textes en anglais,
pour
exactement. Ben, en fait, c'était compliqué de les faire en basque, parce que je suis en train d'apprendre le basque depuis quelques années déjà. Et puis, c'était aussi le choix par mes héros musicaux, par les branches que je pouvais saisir à droite à gauche. J'ai pas beaucoup de culture musicale en français. À la maison, on écoutait du jazz New Orleans, et les Beatles, et d'un père allemand et d'une mère basque, donc mes branches que je pouvais saisir, c'était plutôt en anglais.
Le roi dansant, je traduis le titre de l'album, The Dancing King, que raconte ce titre d'album qui est aussi celui d'une des chansons ?
Alors, c'est le titre d'une chanson qui parle d'être le maître de sa propre danse intérieure, en fait. Ça parle d'un personnage qui danse un peu tout seul au-dessus de... Au-dessus d'un océan de calme, c'est un peu un appel à l'introspection par rapport à tout le bruit ambiant qu'on peut avoir autour de nous, par rapport à toute cette violence qu'on peut voir dans les événements de ces dernières années, dans le changement climatique, dans tout ce qui peut nous hanter un peu dans la vie de tous les jours. Et puis c'est cette envie-là de revenir un peu aux sources, à l'intérieur, et puis de voir... peut-être sa propre humanité aussi.
Alors pour faire connaissance, je vous ai déjà demandé votre titre déclencheur, c'est la première étape, celui qui permet de comprendre qui vous êtes aujourd'hui. Le son des Beatles, très précis, avec quel titre ?
Avec I Am The Walrus.
Pour quelle raison, ce titre déclencheur ?
Parce que c'était un titre qui nous faisait vachement voyager, mon frère et moi,
Johannes. Votre frère qui est producteur de musique aussi.
Exactement, qui est mon producteur, et producteur aussi de disques à Shorebreaker, un studio installé à côté de Bayonne, à Tarnos. Et puis j'ai des grands souvenirs de quand on était enfant et qu'on jouait aux Lego et aux Technics. Je ne sais pas si vous avez connu ça.
Les Lego, oui, mais les Technics, non. Et c'est... vous, Teamed Up ?
Lego seulement.
Alors, les Technics, c'est une variante du Lego, mais qui était un peu plus technique. C'est-à-dire qu'il y avait quand même des vis, il y avait des trucs et tout ça. Donc, c'était un peu plus de la mécanique.
Pour ceux qui devenaient ingénieurs après.
Voilà, ce qui n'est pas
puristes.
Du tout mon cas. Mon frère est plus ingénieur que moi, mais moi, je suis resté.
Donc, en jouant au Lego et aux Technics, vous écoutiez ça ?
À notre sujet, ouais. Donc, on écoutait face A, face B des Beatles qui venaient de. C'était nos tantes à l'époque allemandes qui nous envoyaient des cassettes des Beatles. Et puis, on a vraiment écouté ça tout le temps. Et donc voilà, nous on voyageait perdus dans nos Lego, dans notre jeu, et avec au son de ces au son psychédélique des Beatles. Et c'est vraiment ces morceaux là avec les sons les plus psychédéliques, les ponts qui allaient qui perdaient les gens, et après on revenait dans la chanson plus pop. C'est tout cet aspect là des Beatles qui nous fascinait
et qu'on retrouve aujourd'hui dans votre propre construction musicale, dans les titres qu'on va écouter tout à l'heure. Avant d'entrer dans le livre, Teamed Up, je voudrais qu'on écoute aussi votre titre déclencheur, qui n'est pas sans lien avec votre roman.
Sister Robinson, you're all washed up.
Le son est imparable, c'est celui bien sûr de Supertramp. Identification du son.
A Subbox Opera.
De l'album.
De l'album Crisis What Crisis.
En quoi ce son a été déclencheur pour vous?
Il a été déclencheur de toute une passion musicale symptomatique de la musique que passait mon père dans la maison. Qui était en fait assez anglo-saxonne. C'est vrai qu'ensuite j'ai fait de la chanson française, mais j'ai été plutôt biberonné à la folk, à la pop, aux Beatles énormément, et Supertramp aussi. Il y a quelque chose dans cette chanson qui continue de m'émouvoir autant que quand j'avais 5 ans devant le piano, et il y a une cinématographie, une poésie, je trouve ça toujours aussi inouï.
Au point que cet album de Supertramp, on le retrouve page 100 de votre roman, quand le narrateur rend visite à son grand-père Théodore, placé dans un EHPAD, c'est un homme qui l'a élevé après l'assassinat de sa mère. Donc la bande-son que j'ai pu trouver en fait en lisant le roman correspond quand même à quelque chose de biographique chez vous, manifestement.
Tout à fait. Ça reste une fiction, mais évidemment des choses personnelles s'y insèrent.
On va entrer dans ce premier roman ensemble, Teamed Up, mais avant, retour à la musique, au dernier et quatrième album, Les Immortels. On écoute Si je m'écoutais vraiment.
Si je m'écoutais vraiment, je ferais tomber les clés, déserterais la ville, j'irais perdre mon temps au profit de l'exil. Je ne tomberai pas d'amour pour toutes les actrices. Je ferai moins de détours et paraîtrai moins lisse. Je m'appellerai fumée, je m'appellerai nuage. Je délaisserai mon nom et j'oublierai mon âge. Si les toits, là-bas au bord du monde, je rendrai mes contrats et je claperai des blondes. J'évacuerai la toile à l'aune d'un glacis et je mettrai les voiles sans aucun préavis. Je ferai pousser ma barbe, les cheveux aux épaules. Je n'aurai pas d'enfant, je perdrai le contrôle. Si je m'écoutais vraiment, oh, 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 oh. Je gouacherai les arbres et les vignes du sud, le claquement des haubans d'une autre latitude. Je m'éterniserai face au Komoribi, écrire sur un carnet et à côté l'ennui. Si je m'écoutais vraiment,
je m'écoutais vraiment, extrait de Les Immortels, votre dernier album, Teamed Up, le quatrième. Est-ce que cet album était contemporain de l'écriture du premier roman?
Je dirais qu'il était traversé. Contemporain, non. Il y a eu des disques avant et celui-ci, en fait, est venu plutôt sur la fin de l'écriture du roman. Mais il s'en est, les deux se sont un peu bercés, ouais, mais celui d'avant aussi. Il y a par exemple des bouts de passages que j'ai pas forcément utilisés dans le roman qui ont fini dans des chansons.
Ah oui, il y a eu quand même quelque chose.
Il y a eu une correspondance.
Une correspondance, ouais. Au niveau de l'écriture.
Ouais, carrément.
Premier roman, je me suis fait de leur absence. Leur désigne l'absence de la mère, Sophie, morte sous les coups d'Henri, son mari, en 2001, et l'absence de ce père qui aura passé des années en prison, un père qui vient de sortir. On est en 2020 quand commence véritablement le roman. C'est un texte qui s'ouvre et donc qui se ferme en janvier 2020. Avec des flashbacks. Été 2019, le narrateur rencontre Victoria, naissance d'une histoire d'amour. Juillet 71, c'est la vie de Suzanne et de Théodore à Rosville-sur-Mer avec leur enfant, Sophie, donc la future mère du narrateur, et son frère Vincent. 88, la rencontre en Norvège de Sophie avec Henri, 11 ans de plus, dans une salle de rock. Ça ne s'invente pas. Puis la date des premiers coups, et enfin le meurtre le 5 janvier 2001. Bref, le roman n'est pas du tout linéaire. Il refait l'histoire avec des va-et-vient entre le passé et ce présent de 2020. Comment cette construction s'est imposée, alors qu'au départ, c'était une nouvelle. Donc j'imagine que la construction n'était pas aussi ambitieuse, Tim Dup.
La construction a été progressive. Elle était nourrie déjà de l'ambition d'aller au bout d'un texte, en effet. Et puis, alors au départ, moi, il y avait deux sujets que je voulais traiter principalement. C'était le déterminisme, qui, je crois, quand même, reste le sujet de ce roman. Et derrière l'émancipation, à quel point il est possible de s'extraire
d'une tragédie familiale, ici, dans ce cas-là.
Exactement. Plus globalement, finalement, de psychologie familiale, de construction d'un milieu social, de aussi de carcans et de repères sociaux, géographiques.
Oui, c'est ce qu'essaye de faire déjà Sophie, la mère du narrateur.
Exactement.
De s'échapper de ce milieu, ouais, familial.
Exactement. Et ensuite, c'est d'essayer de comprendre pourquoi, de génération en génération, les erreurs peuvent se reproduire, les déséquilibres se transmettre. Donc voilà, et après, quand on a ensuite petit à petit, je dirais, l'envie concrète de ce roman, de sa thématique, ensuite on travaille. Ensuite vient la structure, et ça c'était nouveau pour moi, j'appréhendais ça, donc voilà, il faut, c'est de la rigueur. J'ai aimé aussi ce temps de travail qui était nouveau, se poser et puis structurer son récit, avoir un plan, avoir quelque chose de beaucoup plus dessiné qu'un album de musique finalement.
Alors je dis toujours le narrateur, mais le narrateur il a un prénom, c'est celui que vous chantiez en 2017.
Quand Pierre rentrera, il faut que je lui dise que le toit de la remise a fui. Il faut qu'il rentre du bois, car il commence à faire froid ici.
Vous avez pensé à ce prénom de Pierre du texte de Barbara que vous chantiez en 2017.
Je dois vous avouer que je découvre finalement la réciprocité entre les deux. Avec plaisir, sans doute, cette chanson m'a traversée. C'est un prénom que j'aime bien, que je trouve humble. Et tout comme l'est cette chanson, elle n'a l'air de rien et en fait, elle sous-tend beaucoup de choses.
Il y a beaucoup de prénoms, parce que c'est une histoire familiale. Mmh. Il y a donc Sophie, Henri, Suzanne, Théodore, Vincent, Esther, la cousine, Victoria. Ces prénoms, comment vous les trouvez ? Ils ont toujours une histoire, les prénoms. Pierre, je l'ai trouvé comme ça, mais bon, c'est peut-être autre chose. Mais les autres, est-ce qu'ils résonnent dans votre propre biographie ?
Non, pas toujours. C'est pas des gens forcément que je connais précisément. Au contraire, on essaye quand même de se détacher, même si on met beaucoup de traits de personnalité, de psychologie, de gens qui nous entourent, voilà, pour trouver quelque chose de vrai, de réel. Mais ces prénoms, je dirais qu'ils viennent comme une projection un peu cinématographique. Au bout d'un moment, on a, je dirais, une liste en fonction de la personnalité de chaque personnage. J'avais même fait un PDF avec des images où je les dessinais, etc. Et à partir des odeurs, de personnalité, de caractère, un prénom se dessine. Je crois que c'est venu assez visuellement.
Alors, il y a de la musique dans ce livre, des chansons, des titres qui accompagnent des moments forts. La preuve par la BO que j'ai pu reconstruire, le premier morceau qui apparaît, c'est celui-ci.
Thank you.
Dès la page 16, c'est ce que le narrateur écoute en bagnole.
Ouais.
Qu'est-ce qu'on entend ?
John Bryan, c'est le thème de, principal, je crois, d'Eternal Sunshine of the Spotless Mind de Michel Gondry.
À quoi correspond ce titre pour vous, pour qu'il apparaisse dès le début de ce premier roman ?
Il correspond, je trouve, à une ambivalence dans l'atmosphère musicale, quelque chose d'à la fois doux, proche de l'enfance et en même temps de profondément mélancolique. Il y a quelque chose comme ça du mouvement de la route, et je trouvais que ça faisait écho avec un personnage qui est au début en pleine effusion, en pleine tension, en pleine rupture, qui a besoin de se rassurer avec quelque chose de moelleux.
Deuxième titre qui apparaît, c'est celui-ci. Il est associé à un nouvel an passé. Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me de Cure, qui apparaît donc lié à l'adolescence, j'imagine, de la mère du narrateur. Mais pour vous, qu'est-ce que ça implique, ce titre ? En quoi il résonne ?
Pareil, je pense, l'adolescence, j'écoutais finalement des trucs de vieux adolescents. Les Cure, j'ai beaucoup écouté Close to Me. Je trouve qu'il y a dans les Cure, encore une fois, cette ambivalence. Des chansons qui nous donnent envie de péter des câbles, de danser comme des dingues et en même temps de chialer tout ce qu'on peut. Je trouve que les Cure, c'est un peu entre les deux, et j'aime bien, au cas où vous ne l'auriez pas encore remarqué, Laurent et Marion, vous qui connaissez un peu ma discographie, l'art du contraste.
Exactement. Troisième morceau, on l'entend dans un bar dansant à Trouville. Enola Gay, vous êtes vraiment bloqué sur une époque dans ce roman, manifestement.
Le mec ne grandit pas. Plutôt vieilli d'avance. Orchestral Manoeuvre in the Dark. C'est génial, ça me fait très plaisir de découvrir en fait une discographie de ce roman. Je réalise que j'ai mis beaucoup de références musicales, comme quoi bon, on vient pas de nulle part.
Manque un titre que je n'ai pas pu trouver, c'est le concert des Pink Floyd au Carnegie Hall. C'est une affiche qui se trouve dans la chambre de Pierre. Et vous, qu'est-ce que vous aviez sur les murs de votre chambre, Tim Dup ?
J'avais un poster des Beatles, beaucoup de vignettes des Beatles que je découpais dans des magazines. Je ne sais même pas comment je trouvais des magazines où il y avait des photos des Beatles alors que je suis dans 94, mais bon. Il y avait des joueurs de foot, un peu trivial, mais voilà, j'étais fan du Barça et de Lionel Messi.
Et chez vous, qu'est-ce qu'il y avait sur les murs de votre chambre ?
Il y avait Kurt Cobain, Chris Novoselic et Dave Grohl.
Il n'y avait
que du Nirvana.
Ah oui, la classe. Retour au sujet, en tout cas un des sujets de ce texte, c'est le féminicide. Le mot est lâché d'ailleurs dans le roman. C'est l'histoire d'un mari qui va tuer sa femme. Et quand le narrateur évoque le drame, on sent, Tim Dup, que vous avez lu sur le sujet, que vous êtes documenté. Page 116, vous donnez le nombre de 213 000 femmes qui ont en 2020 déclaré avoir été victimes de violences par leur conjoint ou ex-conjoint. Et puis sur la protection des victimes, je vais lire page 179, voici ce que vous écrivez à propos du mari. Il avait fait fi de toutes les dispositions répressives à son égard. Ces mesures si faibles au regard des violences, un sursis, une remise en liberté cynique, assortie de quelques restrictions. De quoi appuyer un dysfonctionnement clair et systémique de la police-justice. Par cette négligence, il avait loupé plusieurs de ses pointages en rapport avec sa mise à l'épreuve, pris sa voiture, la route vers la Normandie, déjà décidée. En 2001, il n'y avait pas de bracelet anti-rapprochement, de téléphone grave danger, de 3919. Déjà qu'aujourd'hui, une femme en crève tous les deux jours, alors à l'époque, quelle chance avait-elle, qui plus est, dans une zone rurale où le contrôle est encore si difficile ? Vous citez vos sources, en fin d'ouvrage, une année d'enquête sur les féminicides racontés par les journalistes du Monde 2020, l'association Women Safe and Children. Vous êtes vraiment documenté, vous avez contacté cette association ?
Oui, j'ai contacté cette association et puis en fait, tout est quand même parti de là avec cette association puisque je les connaissais avant même d'écrire le roman. C'est une association qui est basée dans les Yvelines, qui vient en aide aux enfants et femmes victimes de violences par une approche pluridisciplinaire. Il y a des juristes, des psychologues, voilà, un soutien qui est un peu 360, de la prévention des violences jusqu'à l'après-événement dans le pire des cas. Et il se trouve que j'ai fait des ateliers de musique avec des jeunes enfants et victimes. Et j'étais en train de commencer à écrire ce roman. J'avais Pierre, j'avais cette histoire de famille, et découvrir ce que ces enfants, ce que ces ados avaient pu vivre. Je me suis dit que déjà, si moi, ou même en prolongement pour le personnage, dans une enfance plutôt sereine, heureuse, épanouie, il y a des déséquilibres, des dysfonctionnements qui se transmettent de génération en génération. À quel point c'était possible de s'émanciper quand on est un jeune homme de 20 ans, quand on a vécu le drame absolu.
Alors justement, la question de la transmission se pose, même de façon très littérale à un moment donné. Il y a une formule qui revient. Qu'est-ce que transmettre ? La transmission, ça serait pardonner, c'est ça ? La formule, c'est pardonner. Et la fin, c'est surtout se taire. Vous, cette idée de transmission, à titre personnel, comment vous la comprenez ? Est-ce que, par exemple, vous avez le sentiment d'être véritablement le fruit de votre milieu, de votre enfance, de votre histoire familiale, Tim Dup ?
Oui.
Ou vous y avez échappé ?
Non, non, irrémédiablement, j'y suis pris, mais pour les meilleures choses, comme pour les moins bonnes. Mais oui, il se trouve que je suis d'un milieu, je suis d'une certaine famille, et j'ai grandi là-dedans, la différence, c'est que moi, j'ai plutôt de la chance de ce qu'on m'a transmis et de l'univers dans lequel j'ai évolué. Mais je trouve, oui, qu'il y a comme ça quelque chose du déterminisme, où on le voit bien à quel point c'est difficile parfois de s'extraire de vies difficiles ou même de choses plus faciles. C'est assez trivial, mais il se trouve que même si on est dans un environnement où les parents sont hyper présents, moi j'ai eu envie d'indépendance, de foutre le bordel et de faire de la musique. Donc quelque part, on se construit de toute façon en contradiction ou en mimétisme, ça dépend.
Est-ce que vous avez rencontré des enfants dont les parents ont été des criminels?
Ce qui était intéressant sur ces ateliers...
Et qui ont pu avoir peur de reproduire le schéma familial?
Alors ça, je l'ai compris sans savoir ce qu'ils avaient vécu. Et c'était ce qui était sain et intéressant de ces ateliers. C'était que j'arrivais et je ne savais pas. Et je ne voulais pas savoir. Pour ne pas avoir de prérequis, de pitié, de mauvais sentiments à leur égard. En revanche, je savais que potentiellement, ils avaient vécu des choses dramatiques, étaient témoins ou victimes. Et forcément, oui, bien sûr, ça fait réfléchir sur cette idée de chance et de confort quand on l'a, et de toutes les invraisemblances qui peuvent découler de ça. Et ensuite, j'ai eu besoin d'aller, en effet, rechercher, acquérir des outils, des connaissances, m'assurer du chemin que je prenais, parce que c'est sûr que c'est pas un sujet facile à traiter.
Pas du tout attendu pour un premier roman, en fait. Avec même des passages très érotiques, des passages sur la violence, la reconstitution du meurtre, des passages très érotiques aussi. Est-ce qu'il y a eu des séquences plus difficiles que d'autres à travailler pour vous, alors que c'est votre premier roman ?
Complètement, bien sûr. Il y a, outre le rapport à l'écriture qui est très différent, de savoir à un moment se confronter à des moments de silence, à des moments de... Comme dans un disque, il y a des moments où on a l'impression que c'est assez bon, il y a des moments où on a l'impression que ça ne va nulle part. Voilà, faut osciller entre les deux, mais dû à la thématique, il y a eu des moments extrêmement pesants, ouais, dans l'écriture. Il y a eu des moments extrêmement intéressants aussi, d'apprentissage, où j'ai appris beaucoup de choses, j'ai découvert beaucoup de choses, j'ai déconstruit beaucoup de choses. C'était aussi l'ambition que je voulais me donner, faire un roman, certes, mais qui puisse aussi, quelque part, quand même, amener autre chose que cette idée du quotidien d'infraordinaire que j'ai pu développer dans mes disques. Ensuite, je me suis rendu compte avec ces ateliers, ces rencontres avec ces jeunes, que ce point dramatique d'écriture allait être une vraie motivation aussi pour aller au bout d'un texte.
On a rendez-vous avec Marion dans quelques instants, avec Rudiger, je ne vous oublie pas. Tout de suite, Feu Chatterton, qui a signé la BO de La Grande Magie, le film de Noémie Lvovsky, notamment avec ce titre, J'ai tout mon temps, sur France Inter.
Moi qui voulais vivre vite, pour que ma vie dure longtemps. Moi qui voulais vivre lentement, pour retenir le temps. J'ai fait du mieux que j'ai pu, et même si l'ombre est venue, fille, j'aimais pas, ne t'en fais pas. J'ai tout mon temps pour aimer, maintenant. Tout le temps de t'aimer, maintenant. Que l'amour est né, il ne peut plus s'éteindre, il me brûle de joie. Et si l'amour te vient, que ferais-je? Chanterai-je à tes enfants des berceuses que la nuit abrège, ou partirai-je en courant? J'ai le temps de décider à présent. Tout le temps de t'aimer maintenant. Que l'amour est né, il ne peut plus s'éteindre. L'amour est mon chez-moi. Maintenant que le soleil est couché, j'ai le temps de t'aimer pour une éternité. Maintenant que l'amour est né, il ne peut plus s'éteindre. Il me brûle de joie. Il me brûle de joie. L'amour est mon chez-moi. L'amour est mon chez-moi. Désormais que le soleil est couché, j'ai le temps, tout le temps, tout le temps. J'ai le temps, tout mon temps, tout mon temps patiemment. J'ai le temps de t'aimer pour une éternité.
Le temps qui ne tient qu'à un fil, celui de Marion Guilbeau.
Côté club. Le fil.
Une rue David Bowie à Paris, inaugurée aujourd'hui. C'est dans le 13e arrondissement, au niveau du 61 avenue Pierre Mendès France. Inauguration aujourd'hui, parce que le 8 janvier, c'est aussi la date de naissance du musicien britannique, disparu hélas en janvier 2016. Il aurait fêté en 2024 ses 77 ans. Une exposition inédite autour de l'auteur de Starman est également prévue dans la galerie Athéna. C'est au sein même de la mairie du 13e. Une exposition conçue par deux amis de jeunesse de Bowie, le photographe Geoff McCormack et l'artiste peintre George Underwood, l'auteur des visuels des pochettes de Hunky Dory et de The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Dépêchez-vous, c'est visible jusqu'au 14 janvier.
Sauver ma vie sans une larme. Sauver ma vie, briser le charme.
Dans la famille Armanet, pour une fois, je vais demander le père, Jean-Pierre Armanet, qui vient de publier Nuages. C'est son premier album à l'âge de 73 ans. L'idée est née au festival 1001 notes à Limoges en 2022, où père et fille s'étaient produits ensemble. Nuages, c'est le titre donc de cet album. Un disque en majorité instrumental, entre jazz et musique plus contemporaine, mais avec tout de même deux titres où l'on entend la voix de sa progéniture, la brûlante Juliette. Année justice, eh bien, il semblerait bien, après avoir sorti leur film musical Iris Space Opera en intégralité sur YouTube, c'était fin 2023, Gaspard Auger et Xavier Deronet ont posté une courte vidéo avec un extrait de leur prochain disque. Pas de titre, pas de date de sortie officielle. Le duo n'avait rien publié sous le nom de Justice depuis Woman en 2016. On sait juste qu'ils seront sur scène dans quelques festivals cet été. Beau Regard et We Love Green.
Le fil.
Un livre pour ce début 2024, celui sur le point éphémère, réalisé en collaboration avec les éditions Quiblin, qui revient sur l'histoire et les coulisses d'un lieu qui, depuis 20 ans, anime la vie culturelle parisienne. Concerts, soirées, expos, danse, théâtre, résidence. Un lieu qui, comme son nom l'indique, ne devait pas durer, mais qui a su devenir incontournable. Il faut dire que la nuit est souvent belle, le long du canal Saint-Martin à Paris. Une expo, celle consacrée au métal, le style musical Laurent n'a pas le produit sidérurgique. Après le punk, le reggae, l'électro, le hip-hop, la philharmonie s'intéresse à la plus brillante des musiques, des débuts du hard rock jusqu'au trap métal. Vous saurez tout sur cette musique du diable et ses multiples sous-genres, aujourd'hui devenue une vraie culture avec ses codes, ses looks, ses légendes. Le succès du Hellfest en est la preuve ici en France. C'est à la Philharmonie de Paris du 4 avril au 29 septembre. Enfin, je ne résiste pas de vous diffuser ces quelques notes de Jungeli et de son petit génie qui a été le titre francophone le plus écouté sur les plateformes pendant ces périodes de fêtes. Le tube du Nouvel An chez Laurent Goumar, loin devant David Guetta, devant Petit Papa Noël. Un véritable phénomène que cette chanson enregistrée avec Jiménez, Alonso, Abou Debbing et Lossa. Un petit génie, on vous dit. Alors, Rudiger et Tim Dup, qu'est-ce que vous avez retenu de ce film d'information? Une rue David Bowie, vous avez envie d'y habiter. L'expo consacrée au métal, ça vous inspire? Le retour de justice? Tim?
Métal.
Ouais.
Ouais. J'ai envie d'aller secouer la tête un peu, là.
Vous en avez écouté? Vous en écoutez?
Bah, en fait, c'est une découverte tardive. Et donc, j'y prends goût progressivement. Et je découvre, j'apprends beaucoup. Et en fait, j'adore. Je trouve ça.
Demain, il y aura une héroïne de métal, de trap métal. C'est Malvina qui sera notre invitée demain, à votre place, oui. Et pour vous, Rudiger?
Métal aussi, en fait. J'étais un gros fan de métal, mais j'étais plus dans le côté death metal, brutal ouais. Death metal. Donc, il fallait que ça aille vite. Moi, j'ai commencé la batterie avec une double pédale de grosse caisse.
Ah, oui, bien sûr.
Voilà, j'étais plus dans ça, moi, dans l'ultra-violence métal. Mais bon, ça m'est un peu passé. Mais...
Couplet, refrain, et c'est comme ça que ça doit être.
Club. En boucle, quand soudain.
Laurent Goumar sur France Inter.
Tim Dup et Rudiger sont les héros de Côté Club ce soir. Rudiger qui signe un nouvel et deuxième album, The Dancing King. On écoute la chanson qui en donne le titre.
Me into the sun.
C'est le titre, Dancing King, extrait de The Dancing King, signé Rüdiger. Rüdiger avec un tréma, il vient d'où ce nom ?
Alors il est allemand, c'est mes parents qui me l'ont donné, et ma famille vient d'Hanovre, et voilà, donc c'est mon deuxième prénom.
Un nom et plusieurs identités pour plusieurs sons, dont celui-ci lié au Pays Basque. Mais quoi, mais qu'est-ce qu'on entend, Rüdiger ?
Alors là, on m'entend moi à la batterie avec mon groupe de rock Willis Drummond. On chante en basque et ça a bientôt 20 ans. Et on a fait le dernier concert de notre tournée, la dernière tournée de Al'Aire, notre dernier disque, il y a 4 jours. Avec beaucoup d'émotions et je reviens un peu de ça, moi.
Vous êtes batteur sur ce groupe, vous êtes batteur d'origine. Le groupe chante en basque, c'est une langue que vous apprenez ?
Alors c'est une langue que j'apprends depuis pas mal d'années, mais je suis assez feignant sur les langues et parce que je passe mon temps, je pense, avec la musique, donc il faut que je m'en apprenne encore et il faut que je l'apprenne.
Pour quelle raison il faut que vous l'appreniez, cette langue ?
Parce que je suis basque et je me sens basque et Euskaldun en basque, c'est celui qui parle la langue. Donc je me dois de l'apprendre et c'est mon prochain.
Il y a une pression à l'apprendre parce que vous vivez dans un tout petit village.
Oui,
Pays basque espagnol.
À Bella, c'est pas vraiment une pression extérieure, c'est plus une pression intérieure. C'est une envie et puis de parfaire un peu cette appartenance. C'est important.
Il y a des danses aussi basques. Vous les dansez ?
Non. Moi, je suis né dans les Landes d'une mère basque sous le Tine et d'un père allemand. Ils se sont retrouvés comme ça dans les Landes. Mais donc, du coup, jusqu'à mes 12 ans, j'habitais dans les Landes. Et à partir de 12 ans, j'ai rené.
Vous êtes passé de l'autre côté des Pyrénées.
Voilà, exactement.
Alors, vous participez à plein de projets de groupe Botipol, Petit Fantôme, Josefa Irasoki, entre autres. À quel moment vous avez décidé d'entrer seul dans la lumière, comme dirait Patricia Cass?
Alors,
je voulais faire votre culture de chansons françaises, vous allez voir, Rüdiger.
Je suis preneur, allez. Tout est bon. Et ben en fait, c'est vraiment la pandémie qui m'a fait arrêter 15 ans de tournée en tant que batteur. Et donc on s'est retrouvés à la maison, donc c'était super parce que moi j'ai pu souffler un peu. Je me suis retrouvé à des époques en jouant dans 5-6 groupes à la fois, en écumant tout le underground des salles du Pays Basque, de l'Espagne, un peu en France, donc avec Petit Fantôme, avec Botibol. Et pour moi, ça a été j'étais un peu au bout de ce cycle-là et puis c'était bienvenu pour moi, donc je suis resté à la maison, j'ai rien fait pendant 3 mois, vraiment à plat. J'allais à la montagne parce que j'ai la chance d'habiter à flanc de montagne, donc je faisais à peu près rien. Et puis au bout d'un moment, je me suis vraiment ennuyé et donc j'ai remis la tête dans mes disques durs et donc il y avait des chansons qui étaient destinées à Willis Drummond, des chansons qui ont été destinées à Diocebe Irasoki, mais il y avait aussi des chansons qui n'avaient pas de propriétaire en fait, et donc ils se sont retrouvés un peu comme ça orphelines. Et puis du coup j'ai envoyé à mon frère une liste de chansons et ensemble on a mis bout à bout 8 chansons qu'on a décidé de produire et de finir. Et donc ça a donné lieu au premier disque qui est sorti en 2020, Before It's Vanished. Et donc il y a même des chansons de ce deuxième disque qui étaient déjà prêtes en 2020. Et donc elles ont entendu leur moment pour sortir.
Vous chantiez déjà à l'époque ?
Non, quelques chœurs.
Vous étiez batteur, ouais.
Ouais, batteur, quelques chœurs à droite à gauche, mais non, les premières prises de voix que j'ai faites de toute ma vie, c'était au studio avec mon frère à Bayonne. C'était assez improvisé, mais mon frère, il m'a beaucoup aidé pour ça.
Plein de projets, ça veut dire plein d'identités musicales. C'est pas facile, en fait, dans ce cadre, d'identifier son propre, j'imagine.
Je l'identifie toujours. Je sais pas trop comment je chante. C'est un processus qui va se faire avec avec la tournée, avec les différents disques. Je sais pas. C'était assez assez naturel au final. Et c'est mon frère qui m'a poussé un peu dans cette voie. Il m'a dit non, mais force pas, reste naturel. Et dès que j'essayais de donner un peu d'imiter quelqu'un ou d'imiter une voix comme ça, il me dit non, on va la refaire, mais sois toi.
Retour à ce nouvel album folk, rock, electronica, 9 chansons comme hantées par vos héros musicaux. Radiohead, il y a du Kid Hay dans Memories. Un peu plus loin, sur un autre titre, il y a quelque chose de Robert Wyatt, notamment sur ce « Once I Was Away ».
Something, everything, something, everything, nothing is designed to hurt, 'cause nothing
basse, bien oui. Entendu. Et puis même les accords de bossa nova dans The Receiver. Il y a quelque chose dans ce titre tout début que j'ai adoré, c'est le tremblement dans la voix, quelque chose dans le traitement de la voix. Comment vous avez opéré cet aspect fantomatique en fait?
Alors ça c'est un petit trick de production, et comme j'ai dit, en fait les Beatles ils avaient ça aussi, plein de petits sons, des petits ear candy comme on appelle ça, des petits bonbons pour les oreilles, et on adore ça.
Votre frère et vous?
Ouais, on adore ça, donc dès qu'on peut on met des petits effets, des trucs.
Vous êtes batteur, guitariste, auteur, compositeur, interprète, votre frère est producteur de musique, il a un studio, la musique c'est vraiment une affaire de famille? Ouais. Ou c'est vous les deux frères?
C'est nous les deux frères, ma sœur aussi chante, mais en fait on est plus en cheville avec mon frère par rapport au style musical et tout ça. Ma sœur elle chante plus dans les choses traditionnelles, ou elle était plus dans le jazz aussi, elle aime beaucoup le jazz. Mais je pense que la musique a vraiment fait partie de la famille en fait.
Vos parents sont musiciens?
Non, pas du tout, ma mère est artiste peintre. Au Pays Basque, et donc je pense qu'il y a quelque chose de cette discipline de tous les jours d'être dans l'art qui a transparu dans la fratrie.
L'album témoigne d'une grande culture musicale. Qu'est-ce que vous écoutiez pendant son écriture?
Ben de plein de choses en fait. Moi avant d'être musicien, je crois que je suis fan de musique, et donc du coup il y a plein de mes goûts vont de la musique contemporaine, comme j'ai dit avant, au death metal. Bon, ça m'est, j'écoute pas du death metal tous les jours maintenant, mais en gros tout ce qui me passe sous la dent, je suis l'actualité du jazz, je suis l'actualité de la pop, je suis l'actualité de la folk, je suis l'actualité de la musique électronique. En fait j'adore, je pense que j'écoute entre 5 et 10 disques par semaine, un nouveau disque par semaine, et je pense qu'on est beaucoup comme ça.
Alors ça c'est au niveau musical, mais au niveau des textes par exemple, comment apparaît un texte pour les sujets qui ne sont pas des sujets si évidents? Ce ne sont pas des chansons d'amour qu'il y a, ce sont des chansons sur des thèmes comme l'absence, le deuil, l'amitié, l'enfance, le registre un peu politique aussi d'un point de vue métaphorique, notamment avec le dernier titre qui évoque l'épisode des Gilets jaunes. Comment apparaît le texte d'une chanson, une idée?
Je pense que le texte il vient de la musique, vraiment. La musique, c'est d'abord la musique qui vient à moi. Et puis après, ça me met dans un état d'esprit. Et puis je tire un fil. Mais c'est jamais très clair comment ça arrive. C'est souvent un mot sur un refrain ou une image que j'ai. Et puis après, faut tirer un fil et essayer de faire quelque chose qui se tient et qui me parle aussi. C'est très important pour moi de parler de choses très très concrètes en fait, parce que au moment de les chanter en live et de les reproduire, c'est très important pour moi d'avoir cette idée et que ce soit très personnel pour revivre un peu le texte à chaque fois que je le chante.
Le premier texte, Memories, il parle de quoi?
Alors Memories, c'est le récit d'un migrant qui m'a été conté. En fait, aux alentours de 2017-2018, il y a eu le rapatriement de migrants à la frontière espagnole, donc au Pays Basque. Et donc c'est toute une population qui s'est retrouvée bloquée, en fait, qui pouvait plus avancer vers le nord et qui pouvait pas reculer vers le sud. Et donc du coup, au Pays Basque, il s'est formé plein de collectifs et il y a eu une entraide parce que c'est un pays très très actif au niveau politique. Et donc il y a un tissu social qui est très actif. Et donc à Bayonne, il y a un centre d'accueil qui a été monté, qui s'appelle Diakité. Et Sean, le bassiste de Willis Drummond de mon groupe de rock, qui était bénévole à cette époque là, donc vers 2018-2019, et c'est lié à d'amitié avec un migrant, et il est venu au concert. On l'a invité dans un concert de Willis Drummond qu'on donnait à l'époque, et au retour dans le camion il nous a raconté de lui-même son voyage, les gens qu'il a perdus, sa traversée du désert, tout ce qu'on peut imaginer de très difficile à vivre et puis à raconter. Et donc nous on l'a juste écouté, on est vraiment pas intervenu, on l'a écouté, on l'a déposé chez lui et puis on est resté comme ça sans voix pendant une bonne demi-heure au retour. Et puis ça m'a inspiré cette chanson qui est en fait le récit presque mot pour mot de ce qu'il m'a raconté au retour de ce concert.
Donc vous avez ouvert le disque avec cette histoire, vous le fermez avec un autre épisode.
Donc avec l'épisode des Gilets jaunes en fait, qui a vu monter la brutalité policière de plus en plus jusqu'au point où des gens ont perdu des membres, ont perdu la vue, où on a bien vu qu'il y avait une fracture très très nette au sein de la société en France. Et puis je me demandais jusqu'à où ça pouvait aller, jusqu'à quel point quelqu'un pouvait être retranché dans cette violence, donner ces ordres-là, donner ces armes-là à ces gens-là. Et ces techniques d'encerclement, ces techniques qui ont été beaucoup décriées partout, mais qui n'ont pas été abandonnées. Et donc, en fait, c'est juste... J'ai eu une espèce de discussion très, très humaine avec un homme politique fictif, comme ça, et je lui demande, est-ce que c'est pas bizarre d'être tout seul, jusqu'à quel point on peut être tout seul dans ces retranchements et ne pas se rendre compte que les gens n'ont pas besoin de ça, qu'ils ont besoin d'autre chose. Donc c'est très naïf comme chanson. C'est pas vraiment une chanson politique puisque c'est quelque chose de très humain au final, mais j'étais un peu dans cet état d'esprit quand j'ai écrit la chanson, de me dire, mais jusqu'à où, quel sens peut avoir tout ça, jusqu'à où cette situation peut aller, en fait.
Oui, ce serait le mot de la fin. Côté club, c'est fini pour aujourd'hui. Merci Rudiger, merci à vous. The Dancing King, c'est le nouvel album avec des rendez-vous sur scène. Demain, à Paris, en showcase au Palais Sonore, le 16 février à la Centrifugeuse de Pau, et ensuite, direction l'Espagne. Team Dup, merci et bravo.
Merci.
Rentrée littéraire pour vous, le titre du premier roman, Je suis fait de leur absence, c'est paru chez Stock. Des concerts ou pas? Vous vous consacrez à la promotion de ce premier roman?
Les derniers de la tournée, il y a cette semaine d'ailleurs, il reste quelques places au Radion à Lyon, Marseille, Toulouse et Paris au Théâtre de la Ville avec plein de copains sur scène pour clôturer cette aventure.
Ça, c'était pour aujourd'hui, mais demain... J'en parlais tout à l'heure, Malvina sera notre invitée avec Horses, le groupe de quatre musiciens. Ils seront en live pour deux titres. Et pour vous Marion ?
Ce sera les nouveautés nouvelles, Laurent. Trois titres à découvrir.
Je remercie l'équipe du soir à la réalisation Stéphane Le Guenec, à la technique Jérôme Raganou, programmation Marion Guilbeault, Alexis Goyer, Virginie Rouzic et enfin playlist, c'est Valentine Chedebois. Après le journal, vous retrouverez à nouveau Affaires Sensibles. Ce soir, Primo Levi, écrire pour survivre. À demain.